toutes et tous de la musique dans la tête. Parce que ces musiques ont bercé des moments de notre existence. Parce que parfois, ces musiques ont changé nos vies. Parce que ces musiques étaient présentes sur des disques. Parce que ces disques ont une histoire. Un disque, une histoire, c'est votre rendez-vous musical du jeudi soir sur Radio Terre de Mix, de 19h à 20h. Parce que chaque disque a une histoire, et ces histoires font les disques.
Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Terre de Mix pour votre émission Un disque, une histoire, aujourd'hui, Stage de David Bowie. Et pour ce faire, nous avons un invité de marque. Bonjour Max, ce n'est pas toi l'invité de marque, c'est qui alors?
Ah non, aujourd'hui on a un vrai rocker dans le studio quand même, je tiens à le dire. Moi je ne suis pas rocker du tout. Là on a un vrai rocker dans le studio, un musicien de métier, un batteur et un compositeur. J'ai en la personne de monsieur Jean-Raymond Hugonnet, maire de Limours. Donc monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. On a demandé plusieurs fois à ce que des personnes viennent présenter un disque. Vous avez accepté de venir vous aujourd'hui. Alors c'est le 10 janvier, c'est votre anniversaire, donc déjà joyeux anniversaire.
Merci beaucoup.
C'est aussi malheureusement un triste anniversaire qui est l'anniversaire de la mort de David Bowie. Et donc vous avez voulu venir nous présenter un coup de cœur pour vous, une émotion à partager, le disque Stage de David Bowie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de pourquoi ce disque-là?
Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, parce que je sais qu'on nous écoute de très très loin, et je suis depuis le début l'évolution de Radio Terre de Mix. Je suis très heureux que ça soit dans la commune dont je suis maire, que voilà, Radio Terre de Mix soit implantée. Et vous dire pourquoi j'ai souhaité, d'abord j'ai mis un petit peu de temps, hein. Les agendas c'est difficile, mais j'avais pris l'engagement de venir. Pourquoi? Parce que tout simplement quand on écoute le jingle, la réponse est là. J'ai entendu bercer des moments de nos vies et puis changer nos vies. Et sans faire dans les grandes phrases, mais je peux vous garantir que l'artiste David Bowie a influé beaucoup sur ma vie. Et que vraisemblablement l'album dont on va parler, ce moment surtout, parce que plus que l'album, c'est le moment du concert et l'émotion du concert que j'ai encore, ça a changé ma vie, parce que tout simplement le concert c'était le 24 mai 78, et qu'en 78 j'ai 20 ans.
Ah ouais. Et justement monsieur le maire, c'est comment la vie quand on a 20 ans en 78?
Alors c'est comment, déjà au niveau de la musique, c'est forcément une oreille en Angleterre et une oreille aux États-Unis pour la musique pop, la musique rock, parce que c'est là que tout se fait. Je vais pas dire qu'en France il s'est rien fait, bien sûr, hein, mais on est tellement influencé par ces deux pays-là que je dirais, d'un point de vue création pure, on a l'oreille qui va vers la Manche, et puis d'un point de vue réalisation, innovation, enregistrement, on est branché aussi sur les États-Unis. On vient de vivre les années 60 avec des monuments, qui sont encore des monuments d'ailleurs, de la pop musique et de la rock musique dans les années 70. Mais on sent bien quand même dans les années 70 qu'on bascule dans autre chose. Et l'artiste dont on va parler aujourd'hui, au travers de l'album Stage, est un artiste qui, à mon sens, incarne le mieux justement ce qu'ont été les années 70, et qui sont absolument, j'emploierai souvent ce mot-là, mais monstrueuses d'un point de vue création et pour la musique.
Merci monsieur le maire pour ces indications. Alors Bowie, on l'a compris, c'est quelque chose qui a été très très important pour vous. Et je sais qu'en antenne, on disait que Bowie, c'était un univers, c'était un personnage à part entière. Mais j'ai envie de comprendre un petit peu le contexte, j'ai envie de dire plus social, sociétal, dans lequel on vivait à cette époque. Et au moment de cet album, peut-être un petit chouï avant, là je vais laisser peut-être Max, et puis vous n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que le contexte, vous le connaissez, puisque vous y étiez, et pas moi. Et pour nos auditeurs qui n'auraient pas connu cette période, et puis pour ceux qui auraient raté cette période, ça peut être intéressant qu'on en sache un petit peu plus.
Alors, par rapport à cette période et à ce disque, là, par exemple, vous entendez un morceau qui s'appelle Warszawa, qui signifie Varsovie en polonais, et voyez à quel point c'est à la fois très mélodique, très beau, assez triste, assez sombre, est assez froid au niveau du son. David Bowie sort d'une expérience aux États-Unis. Il va rester 2 ans vivre aux États-Unis avec le son Motown, le son de la soul musique. À cause de problèmes personnels qu'il vit, enfin, je veux dire, il est tombé dans la drogue, etc. Pour sa propre survie, il va décider de partir des États-Unis. Il va quitter les États-Unis, il va partir à l'autre bout de l'Europe. Il va partir vivre à Berlin. Donc, ce sont ce qu'on va appeler ses années berlinoises. Il va faire 3 disques à cette époque-là qui sont connus, dont le disque Heroes, dont on parlera. Donc, il est dans un changement total au niveau artistique et culturel. Voilà. Hein, c'est quelqu'un qui, en permanence, est un bouge, change, est un caméléon, s'imprègne. Voilà. Donc, il est dans cette époque-là et il s'en va vivre à Berlin. Il s'en va vivre à Berlin avec Iggy Pop, qui était à l'époque une ville triste, sombre, assez pauvre. Il y a énormément de bâtiments délabrés, les restes de la guerre. C'est une ville en friche. C'est une ville de tension entre l'Est et l'Ouest. Et toute cette époque-là est empreinte de ça. Et le disque Stage est empreinte de ça. Je pense que, Monsieur le Maire, ça serait intéressant que vous nous parliez un peu de la présentation du concert, de l'ambiance qui règne, des éclairages, etc.
À volontiers. Alors, pour ça, il faut plonger dans se remettre ce mercredi 24 mai 1978, replonger dans l'atmosphère. J'ai le ticket, vous voyez, ça me fourmille dans les mains. J'ai la copie du ticket sous les yeux.
Alors, à l'époque.
Hein, ouais, ticket, à cette époque-là, faut dire un petit peu, sans méchanceté, mais qu'on est en France sinistré du point de vue des grands concerts. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, je vous l'ai dit, puis c'est facile à calculer, j'ai 20 ans à cette époque-là et je vais très très souvent en Angleterre. Et en Angleterre, bien entendu, les concerts commencent à l'heure. Pour rentrer dans une salle de concert qui est une vraie salle de concert, on n'a pas besoin de se marcher dessus, vous voyez ce que je veux dire, ou même limite de risquer un peu sa vie, parce que les mouvements de foule, c'est, voilà, à contrôler, c'est compliqué. Là, c'est la société de production Koski Kochua Productions, KCP, qui organise tous les grands concerts de l'époque, au pavillon de Paris. Alors, le pavillon de Paris, Porte de Pantin, ça, comme ça, non, en fait, c'est une ancienne halle aux cochons, comme la halle qu'on connaît aujourd'hui à Nogent, voilà, qui a été reconvertie en espace de concert.
C'est un chapiteau.
C'est un espèce de semi-chapiteau avec une structure métallique quand même. Et puis, dehors, c'est au milieu de nulle part. On sort, on est dans la boue, on arrive là-dedans pour peu qu'il ait plu. Et c'est pas rare quand même sous nos tropiques. Voilà, donc c'est déjà un peu... Vous faites la queue forcément parce que c'est pas bien organisé. Il y a que 2 pauvres entrées. Et là, vous avez des cerbères à l'entrée qui vous tiennent. Faut pas broncher. Et une fois que vous êtes dans la salle, faut se ruer pour être... Bref, un peu compliqué.
C'est un peu chaotique à l'époque. C'était un peu...
Quand je vous dis sinistré, c'est qu'on est sinistré. Bref, mais c'est de tel nom qu'on va voir ces concerts-là. Et là, ce soir-là, on rentre dans le pavillon de Paris, qui est totalement éclairé, avec des néons dans la salle, voilà, un éclairage tout à fait neutre, un peu dur. Et là, je regarde la scène, puisque forcément, je cours, j'étais là quasiment dans les premiers, je cours me mettre tout au début. Voilà. Et là, je regarde la scène, et là, je vois un drôle de truc. Pourquoi ? Parce que rien ne ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. Le matériel est un peu usagé, disparate. Je me rappelle de la batterie de Dennis Davis comme si c'était hier. C'est une double batterie. Elle est mélangée. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du gris. C'est un espèce de mélange. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je regarde. Les amplis sont de vieux amplis. Il y a un piano, un superbe piano à queue qui trône en plein milieu de la scène. Un drôle de truc. Et puis surtout, quand on regarde la cage de scène. La cage de scène est intégralement habillée d'immenses néons, avec des grandes gamelles d'éclairage, un petit peu comme du style de celles qui éclairent les monuments historiques. Et tout est blanc, c'est allumé, et c'est très blanc, et c'est très froid, ce que disait Max tout à l'heure, et par rapport à Warzawa qui passait en fond. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et il y a une drôle d'ambiance, c'est-à-dire que c'est pas comme d'habitude, rien n'est comme d'habitude. Et alors, pour commencer, puisque on est donc ce soir-là, on est déjà un petit peu, pour ceux qui ont l'œil, on regarde, c'est un peu bizarre. Et là, on voit, je me rappelle toujours de voir rentrer une espèce de un petit bonhomme, voilà, avec un pantalon en sky, un petit peu punk, avec un gilet sans manches, vert, et puis une épingle à nourrice en travers comme ça, les cheveux orange, et puis il était en train d'un peu de régler le piano, puis il s'installe au piano, et puis il fait deux notes. Et puis il fait deux notes, on se dit tiens, bah, c'est un Rhodes qui vient régler un dernier réglage. Et puis après, on voit arriver quelqu'un sur scène avec un petit chapeau, quelqu'un, le visage mat de peau, et puis un chapeau indien sur la tête comme ça, qui rentre, qui est derrière, qui circule, qui regarde si tout est en place. Je me dis qu'est-ce qu'ils font. Et puis on voit rentrer un grand black qui va avec un pantalon de treillis, puis un casque colonial qui va se mettre un t-shirt, qui va s'installer derrière la batterie. Mais là, je reconnais bien sûr Dennis Davis. Je me dis, mais c'est les musiciens, qu'est-ce qui se passe? Tout est allumé dans la salle, tout est allumé sur scène, et puis chacun arrive comme ça, et puis c'est parti, et le concert est parti, et la lumière est encore allumée dans le pavillon de Paris. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? On voit les musiciens devant, il n'y a pas d'effet, tout est blanc. Et puis là, d'un seul coup, David Bowie arrive. Et là, tout s'éteint dans la salle. Et là, commence... Et là, j'ai compris, mais à la fraction de seconde, ce que c'était qu'une star, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de le regarder, parce que lui n'est pas habillé comme tout le monde, ça on en avait l'habitude, il n'est pas coiffé comme tout le monde, il ne bouge pas comme tout le monde, il a une espèce de grâce, il est sur un nuage, il est très distant dans cette partie du concert, très distant, et on sent qu'il y a une espèce d'osmose avec les musiciens, que personne n'est comme les autres et qu'on va se régaler pendant deux heures.
Disons, là vraiment, on le vit, hein, vraiment. Merci parce que on est avec vous, on vous écoute et on vit le concert, on aurait aimé y être, hein. Moi j'aurais vraiment aimé y être. Juste par rapport aux éclairages, ces fameux éclairages blancs, c'est parce que dans son dernier disque Station to Station, il parle du Finn White Duke. On ne sait pas ce que c'est. En fait, là, c'est un duc fin blanc, hein, si jamais on traduit, qui lance des flèches aux yeux des amants. Vous voyez, je veux dire, complètement surréaliste. Mais en tout cas, voilà, il crée là, cette ambiance-là. Juste pour revenir un peu là, sur ce que vous avez dit, on en a beaucoup parlé ici, hein, des art schools en Angleterre. David Bowie a fait les art schools. C'est ces fameuses écoles d'art, c'est-à-dire que dans les années 60 jusqu'en 75, au Royaume-Uni, lorsqu'on n'est pas bon à aller à l'école, eh bien on vous met en école d'art. Ça a produit tous les plus grands rockers anglais. On les cite à chaque fois, John Lennon, Keith Richards, Pete Townshend, Eric Clapton, Freddie Mercury, Brian Ferry et David Bowie. Mais il y en aurait encore plein d'autres. Et ces jeunes qui viennent de milieux populaires sont formés aux arts, à tous les arts. On les forme à toutes les musiques, on les forme à la peinture, on les forme à la sculpture, on les forme au mime, on les forme au théâtre. Et on peut dire merci quand même à ces écoles d'art parce que c'est leur apport dans le milieu du rock. Le rock anglais a été empreint de tout ça.
Alors là, si vous me permettez, il y a un complément important puisque vous me parliez tout à l'heure de décrire un petit peu l'ambiance générale au-delà de la musique. Mais c'est pas pour rien que ces deux milieux qui me sont très chers et deux passions dévorantes que sont la musique et le football. À cette époque-là, en France, nous sommes également sinistrés au niveau football, au début des années 70. Alors pas en 78 bien sûr, il s'est passé des choses, mais ça vient du tréfonds, alors qu'en Angleterre c'est foisonnant, c'est un autre monde, et que je comprends, moi j'y vais quasiment tous les trimestres dans une ville relativement importante qui s'appelle Bridgewater, qui est à côté d'Exeter et de Bristol. Et là, je découvre dans les écoles, puisqu'on va dans les écoles, on est invité aussi à partager les cours, et je me rends compte comment même l'éducation là-bas est totalement différente sur le plan sportif, puisqu'on passe le matin en cours, au niveau du lycée, et on passe l'après-midi à faire du sport. Donc je me dis, mais où je tombe? Qu'est-ce que c'est? Et au niveau artistique, il y a un développement. Je dis une chose aussi qui est importante, parce que là-bas, acheter une guitare ou un instrument quel qu'il soit, déjà d'un très bon niveau, est beaucoup moins cher que d'acheter une copie en France.
Ouais.
Et on joue déjà sur des instruments qui jouent juste, et qui sont faciles à régler. Donc il y a tout un tas comme ça. On sent que les choses, chez nous en France, commence à bouger. Et David Bowie est un des vecteurs qui a fait bouger les choses très très vite.
Bah, justement, avec tout ça, vous avez dit pas mal de choses, et c'est ce qui nous amène aussi à quelque chose dont on a discuté hors antenne, c'est comment David Bowie a su s'entourer. C'est-à-dire que sur tous les albums qu'il a pu faire et sur toutes les tournées qu'il a pu faire, il s'est toujours très bien entouré. On a parlé de John Lennon, comme quoi c'était, quelque chose qui était prémonitoire, puisque ils ont travaillé sur un titre, notamment un titre que vous avez souhaité nous faire écouter, une version donc live de l'album Stage in English, et pour la formule. Justement, parlez-nous de ce morceau, pourquoi ce morceau, et puis peut-être que Max, tu peux rajouter des éléments par rapport à cette rencontre avec Lennon et pourquoi ils se connaissaient.
Je vous propose le contraire, c'est que Max nous parle de cette rencontre avec Lennon, et puis ensuite je ferai le complément.
C'est en 1975, donc David Bowie habite aux États-Unis depuis maintenant un an, il rencontre John Lennon qui lui est arrivé en 71. John Lennon, qui est dans son Lost Weekend, vous savez, il a quitté sa femme, Yoko Ono, et il va vivre un an et demi à la fois sur un plan artistique assez développé, parce qu'il va faire énormément de disques et produire d'autres artistes, mais c'est aussi une époque où il fait un peu n'importe quoi, il devient alcoolique, etc. Bref, il rencontre David Bowie, qui lui est en conflit avec son agent artistique, Tony DeFries, qui l'a complètement roulé, etc. Et donc ils sont dans une chambre d'hôtel, John Lennon et lui, ils se retrouvent entre deux Anglais à New York, vous voyez, et ils discutent du pays, mais ils discutent aussi de la célébrité. Et John Lennon, donc, à un moment donné, prononce comme ça ce mot fame, il prend une guitare, c'est lui qui prononce le mot, qui chante le mot, qui trouve le riff de la chanson. Et là-dessus, ils vont se mettre à écrire les paroles ensemble, et c'est Carlos Alomar, le guitariste de David Bowie, qui va faire les arrangements, et ça va être le premier single numéro 1 de David Bowie aux États-Unis. Voilà, comme ça, sur
un coin de table,
15 minutes, voilà, une espèce de fulgurance comme ça, à E3, ils produisent un tube.
Alors, oui, ils produisent, effectivement, c'est dans l'écriture, dans la rapidité, c'est fabuleux, mais c'est pas...
C'est pas inné, il y a un travail derrière.
Ces choses-là viennent de loin, c'est-à-dire que la grande, à mon sens, hein, très modestement, mais David Bowie, c'est toujours ou entouré des meilleurs, ou a attiré vers lui les meilleurs. Et là, à cette époque-là, il travaille avec une équipe rythmique, et j'ai toujours l'attention portée, étant donné ma profession, vers la rythmique, mais il travaille avec une équipe qui est énorme. D'abord, on a, je l'ai dit tout à l'heure, Dennis Davis à la batterie, George Murray à la basse, qui est black également, et Carlos Alomar, qui est un rythmicien, un guitariste, qui n'est pas un homme à faire des choruses de 6 heures, mais en revanche, c'est un arrangeur. Et un musicien accompli. Et ces trois-là, ensemble, dans le voyage, la traversée de Bowie quand il vient en Europe et à Berlin, ces trois-là sont dans les bagages au moment d'enregistrer les albums. Et là, ça va s'entendre justement sur le titre qu'on a choisi là, parce qu'il faut faire un choix.
Malheureusement.
Vous allez bien écouter ce qui se passe, et puis j'essaierai modestement aussi de le commenter au hasard des plages. Voilà.
Allez, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, ce morceau Fame. Ah, oui.
En concert.
Vous voyez cette rythmique-là, par exemple, si aujourd'hui on l'entend pas 20 fois par jour.
We'll be right back.
vous entendez déjà, parce que David Bowie est l'énorme tube qui va le faire dans les années 80. Ouais. Il y a déjà les germes là.
Let's Dance, ouais.
Voilà. Mmh. Et indépendamment de cette rythmique basse batterie qui est collée comme tous les doigts de la main, derrière il y a un travail de guitare très important, à la fois d'un côté de Adrian Belew, le guitariste soliste, qui émet des sons plus qu'il ne joue de la guitare, et Carlos Alomar avec la rythmique.
On sent que c'est du sérieux derrière. Hein, ça.
Ah, oui. Il triche pas. Et là, on voit pas la gestuelle de David Bowie sur scène. Et vous voyez que les phrases sont très espacées. Et la façon dont il se déplace sur scène, c'est juste phénoménal.
Cette chanson, il dit que la célébrité rend les hommes superficiels. Et il dit exactement un tyran pour toi, un froid pour moi. Voilà, en s'adressant au public.
Et ça swing toujours. C'est une des particularités, c'est que les musiciens que David Bowie attire, et ça a toujours été à son image des gens qui arrivent à mélanger des influences, c'est-à-dire à avoir parfaitement digéré le rock et le jazz. Parce que si ça swing pas, ça.
On sent des accents.
Bien sûr.
De jazz là.
Bien sûr, le swing.
Ça groove. Alors c'était ce morceau Fame, donc qui a été écrit avec John Lennon. Ils étaient un trio, hein, on l'a bien compris, mais on a bien vu aussi au travers de ce que vous nous avez dit, c'est que voilà, il y avait beaucoup de monde qui ont participé un petit peu à cette évolution. On a parlé beaucoup de précurseurs chez David Bowie, en disant qu'il avait été précurseur de pas mal de choses. C'est aussi si quelqu'un qui était quelque part engagé, en tout cas qui a défendu certaines causes qui à l'époque sont pas forcément très encouragées ou très suivies par l'opinion, ou en tout cas appréciées. Par exemple, si on parle ne serait-ce que d'homosexualité, à l'époque c'était plutôt tabou, en tout cas compliqué d'annoncer les choses. Lui s'en est pas privé, il l'a plutôt exprimé. Comment c'était à l'époque, comment ça a été perçu cette chose-là? C'est un sujet d'actualité, hein, on en parle encore de nos jours, c'est quelque chose qui paraît forcément accepté. Voilà, à l'époque déjà, lui était déjà positionné, quoi.
Ben, ce qui est important, parce que cette émission était aussi écoutée par les jeunes, donc c'est aussi de donner certains éléments historiques, de contexte, d'époque, etc. Il faut savoir que l'homosexualité en France a été un délit jusqu'en 1981. C'est-à-dire qu'avant 1981, vous êtes un délinquant quand vous êtes homosexuel. Au Royaume-Uni, c'est un crime. Vous voyez, je veux dire, par rapport à l'échelle des... Il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Oscar Wilde est mort en prison parce qu'il était homosexuel. Enfin, il est mort en prison. Il en est sorti, mais il en est sorti dans une détresse terrible. Il est mort dans la misère totale. Hein. Donc, c'est pas rien. Là, on est en 1972. En 1972, il fait une déclaration à la presse en conférence de presse en disant qu'il est bisexuel. Il ne dit pas qu'il est homosexuel, puisqu'il était avec une femme. Il a déjà un enfant. Il dit qu'il est bisexuel. Et ensuite, il va le mettre en scène de façon outrageuse, quoi, je veux dire. Voilà, hein. Eh bien, c'est en effet, à cette époque, c'est extrêmement subversif. Voilà. C'est extrêmement subversif que de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont homosexuels dans le milieu des arts, de la chanson, etc. Dans le milieu du rock en Angleterre, par exemple, tout le monde sait que Brian Epstein, le manager des Beatles, est homosexuel, etc. Mais on n'en parle pas, on le cache. Lui, c'est la première fois qu'on va en parler. Voilà. Et en ça, là, en fait, encore, il est novateur. Alors aujourd'hui, on en est au mariage homosexuel. Il faut savoir qu'à cette époque, c'est un délit ou un crime. Et jusqu'en 1992, l'OMS, l'Office mondial de la santé, va dire que c'est une maladie mentale.
Absolument. Alors, moi, juste pour vous dire comment on a ressenti ça à l'époque, alors c'est juste une anecdote, hein, mais parce que ce disque-là, indépendamment du personnage Bowie, mais ce disque-là, on ne pouvait pas passer à côté, et c'est pour moi la plus belle pochette de disque jamais faite, jamais réalisée, c'est celle de Aladdin Sane. On est en 73. Et quand en 73, je reviens, je me vois encore, je rentre à la maison avec ce disque sous le bras, sans avoir une réflexion d'ailleurs de mes parents, de ma maman, mais je revois sa tête. Je dis, man, c'est David Bowie. Et je lui dis David Bowie comme si j'avais vu Dieu le Père, quoi, la vérité révélée. Et je vois sa tête. D'un mélange d'incompréhension de quelqu'un, voilà. Mais il y avait de ça derrière, c'est-à-dire que c'était tellement, on s'imagine pas, vous avez raison Max de le préciser, mais on s'imagine pas la révolution, c'est-à-dire que voilà, il était même pas, il annonce même pas une homosexualité.
Une bisexualité.
Faites bien le préciser.
C'est incroyable. Je vois dans ce livre formidable là, de Paolo Hewitt et Robert Helms la photo dans laquelle il se met en scène, comme vous l'avez dit, où on le voit pousser le landau de son enfant, lui, je ne vais pas dire habillé en femme, mais incarnant une femme, et sa femme incarnant presque l'homme, quoi. Et ça, pour, à l'époque, mais c'est même pas lunaire. On est sur Saturne, on est sur des planètes pas encore découvertes.
Il vit un peu comme une œuvre d'art. C'est-à-dire que la vie de cet homme est une œuvre d'art.
Certains ont dit que c'était une œuvre d'art à part entière.
D'ailleurs, lorsqu'il meurt, il l'a mis en scène. Oui. Il a mis en scène sa mort. Il a fait des vidéos dans lesquelles il montre sa mort. Il sort un disque presque le jour de sa mort. C'est incroyable. Il a vécu comme une œuvre d'art. Sa vie est une œuvre d'art à part entière.
Alors, David Bowie, on l'a bien senti, c'est un artiste multifacette, multicompétence, respecté aussi par tout le monde, mais des fois, il a 5 ans. 5 years, est-ce qu'on peut en toucher quelques mots? Et pourquoi vous avez choisi de nous faire découvrir et écouter ce morceau?
Alors, il y a ce qui va être du fond du texte, de l'analyse. Là, je laisserai Max donner, bien entendu, les détails que l'on aime beaucoup découvrir. Moi, je me concentrerai plus sur la musique. Vous allez voir dans ce titre-là, parce que les titres de rock sont généralement faits, vous voyez ce que je veux dire, les grilles harmoniques, les suites harmoniques et autres. Mais ce qui est impressionnant là, ce sont les trouvailles qui sont à chaque fois données sur des titres qui ont le format, je le redis, de chansons. Alors même s'il y a des plages, même s'il se permet des choses à l'époque qui sont devenues des numéros 1, mais qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, tout simplement parce que tout est formaté, tout est numérique. En plus, à cette époque-là, on est en pleine époque dans l'analogique, et il y a encore une fois dans ce titre-là, dans Five Years, un groove spécial. Vous allez déjà voir le tempo, qui est un tempo très lent, et c'est déjà un groove, mais hyper moderne. Et ça, à l'époque, il n'y a que cette rythmique qui est capable de faire ça. Parce que, encore une fois, on l'entend, c'est comme une évidence, mais quand vous êtes dans le studio avec l'artiste, que le morceau sort et qu'on est en train de créer, parce que ce n'est pas David Bowie qui va indiquer à Dennis Davis « Prends-moi ce tempo en changeant à la quatrième mesure », ce n'est pas ça. En revanche, Dennis Davis, en entendant ça, en étant bercé dans une ambiance, en lui-même véhiculant sa culture de jazzman, parce que c'est un jazzman, il a beau avoir le casque colonial sur la tête et une double batterie, c'est un jazzman et un grand technicien, mais qui joue là dans un autre univers et sans aucun problème avec son bassiste. Et il y a un groove, vous allez voir, dans ce morceau, qui est à la fois entêtant, qui est à la fois moderne pour l'époque, radicalement moderne. Donc c'est encore une fois quelque chose qui ne ressemble, on est encore une fois, je vous le dis, en 78, hein, qui ne ressemble à aucun autre groupe, aucun autre musicien.
La chanson a été écrite en 72, hein, c'est sur Ziggy Stardust. Ouais. Ce groove de batterie, en effet, incroyable, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, on commence par le son de batterie sur le disque. Hein, c'est la batterie qui arrive et tous les instruments arrivent dessus. Par rapport à la signification de Fafavière, ça fait partie de ces chansons de Bowie auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Parce que là, il s'intéresse à la musicalité. Vous voyez, déjà, l'histoire de ce disque, qui est donc un concept album, c'est un album qui raconte une histoire entière. C'est un gars qui arrive d'on ne sait pas où, un extraterrestre, qui arrive sur Terre là, pour devenir une star du rock. Vous voyez, donc c'est un peu barré, quoi. Je dirais que c'est pas très important et vous le dites très bien, il y a une musicalité là-dedans. Par contre, c'est tout le final où il parle de ses 5 ans, hein, où il dit nous avons 5 ans ancrés dans mes yeux, vous voyez, je veux dire. Et là, il raconte une histoire, il a vécu des choses personnelles à 5 ans dans des loges de théâtre où il va voir des choses qu'il aurait pas dû voir. Bon. Et c'est ça que en fait raconte cette chanson. Voilà.
Bah, je vous propose qu'on l'écoute, messieurs.
Volontiers.
Et ce fameux groove de batterie. Hein,
tout à fait.
Qui entre, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau.
En live, hein, en plus.
Pushing through the market square. So many mother's sides.
Fallait le trouver, ça. Fallait le trouver.
News had just come over. We had 5 years left aside.
La batterie installe une tristesse dans le morceau, c'est incroyable.
Mélancolie.
Hein, c'est fou, hein.
Cried so much that his face was wet. Then I knew he wasn't lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. So I'm
Ce qui frappe dans ce morceau-là, c'est un tempo très lent. Donc, comme tous les tempos très lents, ce sont les plus difficiles à jouer. Et c'est l'utilisation de l'espace.
Oui, il y a de l'espace.
Ils sont quand même 8 sur scène avec David Bowie. Et écoutez bien ce qui se passe. Déjà, on ne peut pas dire que ce soit la batterie qui encombre l'espace. Elle marque cette espèce de répétition. Et derrière, on entend les synthés, les guitares, la basse et sa voix. Parce qu'encore une fois, on est au service de la voix. Et ça, c'est énorme.
Il y a un côté onirique presque, hein, oui. Cette montée-là. Pour arriver au Fafavière,
on y arrive. Avec des cœurs.
Ça c'est magnifique. Il a 5 ans et son cerveau est blessé.
Alors après il y a quelque chose aussi dans la performance vocale. Cette voix avec à la fois ses graves, et je préfère la voix de David Bowie quand il est dans les graves d'ailleurs. Cette voix grave et puis cette voix qui sait monter toujours dans des progressions qui nous emmènent. Là, imaginez-vous sur scène. Là, on est déjà dans la stratosphère. Là, on entend la double grosse caisse d'ailleurs. Et on revient.
À la batterie, ouais.
Et là, je peux vous garantir que.
Très belle découverte. C'est vrai que ce morceau, moi par exemple, je le découvre aujourd'hui, je ne connaissais pas, je l'ai peut-être déjà entendu, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ce côté justement, on joue avec les sons, parce qu'on a certes une batterie, mais il y a une petite réverbe, un léger delay qui est là, qui est présent, qui vient juste intercaler derrière au niveau du son. On est sur quand même un travail technique. Vous en parliez un petit peu en antenne, désolé de dévoiler un peu les secrets de l'émission, mais vous parliez du son de cet album. Moi, je trouve qu'il est pas si mal que ça, l'enregistrement stage.
Ah, moi, je trouve que c'est un très bon enregistrement. Oui. Ce que je pense, c'est que il a mieux chanté. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai entendu mieux chanter. Voilà, il n'était pas dans un bon soir au niveau du chant.
Ouais, mais je trouve que là, l'émotion de ce qu'on vient d'entendre, voilà, il s'arrache, il est peut-être pas au mieux de sa forme, peut-être que voilà, il a peut-être aussi, voilà, s'il a enchaîné 6 ou 7 concerts dans les jours qui sont suivis, il peut être un peu fatigué, mais là, ce qu'il vient de donner en termes d'émotion, je crois que ça.
Mais là, je vais être terrible. Parce que je vais nous ramener à une notion qui s'appelle le temps. Oui. Et quand je dis ça, je dis pourquoi. Parce que, et j'aurais dû le préciser quand on en parlait hors antenne, mais je dis ça parce que je fais découvrir forcément ces moments-là, d'abord. J'ai fait découvrir ces moments-là à mon épouse et puis à mes enfants. Et des enfants qui ont respectivement 17-14 ans, ils ont l'oreille numérique. L'oreille analogique, il faut leur apprendre. Alors moi, ça va, ils sont tombés dans la marmite. Mais voilà, qu'est-ce qu'un jeune de 18, de 20 ans, de 17, de moins, quand il écoute ce son-là, est-ce que l'émotion... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il prend comme émotion? Bien entendu, on l'entend. Mais voilà, c'est pour relativiser par rapport au niveau de son, même en live, de ce qu'ils écoutent aujourd'hui, où souvent les albums live sont un peu bidonnés. D'ailleurs, je le dis au passage, j'ai retravaillé. Là, on est de brut de décoffrage quasiment, parce qu'on est avec un mobile à la sortie du studio, de la scène, du concert.
Ouais, bah, et que c'est fait. Quoi, je rappelle. Dans les conditions du direct, l'album mixé légèrement. Mais...
Voilà, l'album sort en septembre 78, la tournée est toujours en train de se produire, puisqu'elle commence en mars 78 et qu'elle se termine à la fin de l'année, je crois, au Japon. Et c'est d'ailleurs de la fin de tournée que nous viennent les images. Parce que je disais tout à l'heure, le truc de ce disque, c'est qu'on a le son, mais on n'a pas l'image. Moi, je l'ai. Et elle reste aggravée à jamais dans le disque dur central. Mais les images qui existent sont des images tournées par les Japonais sur la fin de la tournée. Et des images personnelles, mais on n'y a pas accès, de Carlos Alomar, puisque des prises ont été faites et vraisemblablement des prises plus intéressantes que celles qu'on voit, mais elles restent propriété. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu.
J'ai une question pour vous, parce que plus intime. Oui. Donc là, lorsque vous allez à ce concert, ce fameux concert qui va changer votre vie, vous avez 20 ans.
Oui.
Moi, j'ai vu un concert qui a changé ma vie aussi, un an après moi, en 79, c'est avec Léo, au même endroit. Mmh. Bon, Kiss Moon, il n'est plus là malheureusement, mais ça a quand même changé en fait ma vie. Est-ce que vous avez déjà décidé à 20 ans que vous allez être un musicien professionnel et un concert comme ça, est-ce que ça vous dit ben, je vais être un musicien professionnel ou alors au contraire ils sont trop bons et je suis pas à la hauteur quoi? On ressent quoi?
Ah ben, il est Mariol Max hein, quand même, parce que cette question là bien entendu j'y pensais depuis tout à l'heure. 78, j'ai 20 ans, je suis en train de décider que voilà, c'est la musique mon métier, j'en fais déjà beaucoup, je gagne un peu ma vie d'ailleurs avec à ce moment là et il est certain qu'en sortant de ce concert, je sais que ça va être ça. D'accord. Uniquement. Après, j'ai ni la prétention de me dire, tiens, un jour, je vais me retrouver derrière un artiste pareil, ni la bêtise qui serait de se dire, ils sont trop bons, j'arriverai jamais à faire ça. On n'est pas dans... Justement, ces gens-là, je pense, pour avoir rencontré quelques musiciens, j'ai pas eu la chance de connaître Dennis Davis, mais pour avoir connu de près de grands musiciens qui sont plus là aujourd'hui ou qui sont encore là, c'est des gens très très humbles. Et ça donne au contraire, et c'est ça, quand je sais que je vais faire de mon métier, voilà, la musique, ça va être mon métier, mais je sais que ça me donne envie de bosser, justement. C'est ça, c'est parce que ces gens-là ne sont pas là, que ça soit David Bowie ou les autres. Forcément, David Bowie, c'est la star, on la voit comme ça, on se dit, David Bowie, il doit passer sa journée à s'apprêter, à ce machin. Non, David Bowie, bien entendu, il fait son travail d'artiste, mais il a travaillé comme une bête Alors, doué, pas doué, moins doué, c'est pas le problème. C'est qu'ils ont tous travaillé pour jouer comme ils
jouent. Énormément travaillé.
Mais c'est énorme. Ils donnent une impression de facilité. Et comme ils sont tellement semblables aux autres ou autres, voilà, on les voit, bah oui, c'est des musiciens, ils prennent. Mais ils ont travaillé, c'est énorme. On va parler du reste du groupe aussi, mais là, pour paraphraser Bernard Blier, on navigue dans le sublime. Vous voyez ce que je veux dire? Les uns et les autres, ils ont des états de service à faire pâlir tout le monde, mais très humblement. Mais quand vous avez une rythmique comme ça derrière vous, Denise Davis, George Murray, Carlos Salomar, et que vous passez sur Sid Mays au piano qui a disparu également, Roger Powell, les synthés à l'époque quand même. Dans les groupes, les synthés, c'était des mutants.
Ils valaient une fortune à l'époque. Hein, les
ça vaut des fortunes.
Ça vaut des fortunes.
Ça circule sous le manteau. C'est des réglages très pointus. C'est des machines qui sont relativement fiables. On va écouter tout à l'heure
un
morceau.
Il n'y a pas de présélection à l'époque. Ah non, il faut en fait chercher le son.
C'est de l'analogique.
C'est vraiment du synthé de recherche. Mais moi, je trouve que le son n'a rien à voir avec aujourd'hui.
Ah non, bien sûr. Et puis le violoniste Simon House, qui jouait dans Hawkwind, qui a eu des problèmes aussi. Tous ces gens-là ont un parcours personnel avec des expériences musicales, mais uniques au monde. On parlera des derniers musiciens qui ont joué sur l'album Testament de Bowie. Là aussi, il s'est toujours entouré, mais peut-être sans le chercher. Je pense que tout ça se fait aussi par rapprochement, mais les gens viennent voir David Bowie parce que David Bowie, c'est une... Je disais tout à l'heure, hein, aujourd'hui, il y a un mot qui est galvaudé, qui est le mot de star. Et la moindre personne qui se met la moitié du pot de gel sur la tronche est considérée comme une star qui fait un morceau sur lequel j'aurais plaisir à danser, à écouter peut-être, mais bon, c'est pas la même chose. Là, on parle de ceux qui ont défriché ce terrain et qui ont créé une œuvre.
De gens aussi là, qui vous ont donné envie, vous et d'autres,
mais voilà.
à en faire votre vie. C'est-à-dire que là, nous, on est une maison de jeunes et de la culture. Oui. Je veux dire que c'est important là, ce que vous dites là. C'est-à-dire que là, c'est pas tout le monde qui vous donne envie à un moment donné de dire ma vie sera ça.
Voilà.
Et quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que c'est aussi noble si jamais ça vous donne envie d'être un menuisier ou être un musicien professionnel. Mais les personnes qui vous donnent cette inspiration-là, ce sont des personnes sacrées. Quoi,
je veux dire, bien sûr. Et en Angleterre, quand on en parlait, vous pensez bien que les gens qui écoutent ces titres-là, qui ne sont pas musiciens, mais qui se retrouvent à être des menuisiers, des tourneurs, fraiseurs et autres. Mais la vie, leur vie, la musique de Bowie, les aide à traverser cette vie-là, cette condition qui est quand même pas facile. Voilà, c'est sûr que lui, il a habité les mémoires collectives, qu'on soit musicien, pas musicien, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est impossible.
On va peut-être écouter d'autres morceaux parce que malheureusement le temps avance. Oui,
Il nous reste encore un petit peu de temps, mais effectivement il va falloir qu'on avance. Il nous reste encore quelques morceaux à vous faire découvrir et notamment TVC
1.5.
TVC 1.5. Désolé pour mon anglais. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce morceau? Pourquoi ce choix?
Eh ben ce choix parce que on l'a dit tout à l'heure, le début du concert est très froid. L'ambiance, il y a une ambiance, une espèce d'ambiance. Ah, c'est un mélange de chaleur intense dégagée par l'artiste et de froideur extrême dégagée par une ambiance. Là, vous allez voir, ce morceau-là est un morceau de, j'allais dire presque de rigolade. Vous allez voir l'ambiance générale qui se... Chaque titre est fondamental. Rappelez-vous de Warzawa par lequel on a commencé avec les grandes plages de synthé, la voix...
En polonais,
voilà. Et là, maintenant, écoutez TVC 1.5, c'est un changement radical d'ambiance totalement.
C'est un rire.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. On les entend. Elton John peut-être.
Il y a toujours eu chez David Bowie une ambiance cabaret aussi, hein, qu'il aime beaucoup, hein, dans la Lady Michel par exemple. Là on la retrouve.
Ouais.
je le compare un peu à un magicien de la musique, quoi. Un magicien parce qu'il est capable de tout transformer aussi, quoi. Il y a ces musiciens comme ça qui sont capables, artistes, là, de tout ce qu'ils prennent, ils en font ce qu'ils veulent.
Ça, mais la ligne basse batterie, c'est quand même un monument aussi. Ça.
C'est clair que le bassiste fait plaisir. Hein, c'est clair. Là, on a un baloche, quoi.
On a un baloche, parce qu'il travaille au cut-up là, sur cette chanson. Donc les paroles sont complètement surréalistes. Hein.
Vous voulez dire qu'elles n'ont aucun sens ?
Je sais pas, je pense que pour lui peut-être qu'elles en ont. Peut-être pour lui il y a des sens cachés, je suppose. Mais c'est pas. Il n'y a pas de premier
message.
De degré, quoi. Premier message.
Je suppose que voilà, on a plutôt fait le tour de l'ambiance.
Le morceau qu'on écoutera après, justement, il donne à lui seul une idée de ce qu'est l'approche à la fois aussi technique de la musique à l'époque avec les synthés. C'est-à-dire que c'est le morceau Station to Station et donc avec la reproduction du son du train, mais pas pour faire une blague, voyez, coucou, on fait le son du train, c'est pas ça. Vous allez voir comment petit à petit s'installe le train sur scène à deux musiciens, c'est-à-dire à la fois Roger Powell au keyboards et au synthé, avec le guitariste dont on parlera sur la fin, Adrian Belew. Et à eux deux, ils font un espèce de train, et je me rappelle qu'à l'époque, le sonorisateur faisait bien entendu passer le son en stéréo d'une partie de la scène à l'autre.
Pour donner un effet un peu.
Et c'était juste fabuleux. Et puis là aussi, il y a une progression terrible.
Voilà. On fera juste entendre, parce que juste pour information, la prochaine émission, on voudrait la faire sur le fameux disque en concert de Jethro Tull, Starting Out.
Bien sûr.
Et il y a aussi un train qui est fait autrement. On fera entendre. Bah, et ça se passe au même moment, en 78, ça enregistre en Italie, à Milan. Et avec des moyens un peu rudimentaires, un peu artisanaux.
Voilà. Bah, le train a toujours été une thématique.
En parlant de train, autant aller de station to station.
Yes.
Donc, quelle belle transition. Radio Terre de Mix, un disque, une histoire. Alors on est toujours en live, hein. Stage, hein, cet album, avec le train qui va monter.
Le rythme d'une locomotive, hein.
C'est amazing. Surtout Roger Powell est debout derrière son synthé sur une estrade, un petit peu sur la droite de la scène. Et Adrian Belew va entrer.
Là, on bidouille en direct, hein, le synthé.
En direct.
Il fait de la recherche sur scène.
Il y a des images sur YouTube d'ailleurs.
Il accélère.
Voilà Adrian Belew. Attendez la suite.
On voulait de l'analogie, qu'on en a, hein. Ouais.
Ah,
engagé musicalement, bien sûr. Hein.
Eh oui, ça.
Voilà nos amis.
C'est très construit, hein. C'est hyper construit.
La cymbale sur laquelle tape Danis Davis est une cymbale chinoise,
ouais.
Sur la droite. Il faut vous garantir que dans les 3 jours qu'on suit ce concert, j'en avais une à la maison que j'ai toujours. Voilà la double grosse caisse. On entend des pizzicato derrière, c'est le violoniste Simon House.
Ouais. Lost in my circle, dredging the ocean.
Limite des sons de banjo, ça sonne limite.
Oui, c'est vrai.
Peut-être qu'il en joue comme ça d'ailleurs.
Ouais, ouais, peut-être. Ouais.
Here am I, flashing no color, tall in my room.
Il y a toujours ce côté dandy quand il chante, c'est incroyable. Ocean.
Musical, la partition n'est pas une partition classique de 4-4, il y a des mesures en coin de mur.
Quelle mesure c'est ça, monsieur le maire?
C'est un mélange binaire ternaire.
Ouais, hein.
There are you, you drive like a demon from station to station.
On va être obligé malheureusement de le descendre pour laisser voilà pour arriver sur la dernière partie
le péplum.
On peut pas péplum. Quitter un disque, une histoire sans le péplum, c'est pas possible. Et quel péplum! Alors là, je vous laisse totalement la main, monsieur le maire, pour nous expliquer, nous raconter, nous faire saliver, nous donner de l'émotion autour de ce morceau. Mais bon, je pense que rien que le titre déjà va combler tout le monde.
Bah, mon péplum à moi, en tout cas sur stage et pour la musique, c'est Heroes. C'est une chanson énorme. Avec encore une fois musicalement un thème qui est merveilleux. Je laisserai Max nous parler des paroles qui ne le sont pas moins, mais il y a là dedans une espèce de progression ultime d'un morceau comme il savait les faire, qui progresse et qui vous emmène dans autre chose, et qui, en tout cas moi, c'est ce que j'aime dans la musique, et c'est ce qui certainement m'a décidé à en faire mon métier. C'est que quand on joue de la musique, mais quand on en joue vraiment, on est dans un autre monde. On s'évade. Et quand on est là-haut, comme lui, c'est nous emporter.
On sent beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais. Beaucoup, beaucoup.
Merci infiniment.
Merci beaucoup, hein, pour ce moment parfait. Parfait. On écoute Heroes. Max, je sais que tu as tendance à dire quelque chose qui est important pour nous.
C'est pour ça que le rock est grand.
Keep us together, but we could be down forever and ever. We could be heroes, just
just for one day. You can be me, and I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, and that is the fact. And that is that. For nothing will keep us together, though we may be bent just for one day. We can be heroes just for one day. I wish I could swim like the dolphins can swim. Oh, nothing will drive them away. Oh, we could be there just for one day. We could be heroes forever and ever. What to say?
Pour nous quitter, juste c'est Kate Bush, la grande chanteuse et artiste qui a écrit ça en 2016 sur David Bowie, et ça résume bien tout. Et je voulais vous le dire, David Bowie avait tout pour lui. Il était intelligent, imaginatif, audacieux, charismatique, sympa, sexy et extrêmement stimulant, tant sur le plan visuel que musical. Il aura généré une œuvre exceptionnelle, son génie était absolument vertigineux. Des gens très doués ont créé des œuvres magnifiques, c'est vrai. Mais qui d'autre que lui aura à ce point marqué notre époque? Personne. Quel que soit le voyage que son âme accomplisse à présent, j'espère juste qu'il peut ressentir à quel point il nous manque à tous.
Vraiment, merci pour cet hommage, parce que là, aujourd'hui, on a partagé ensemble une émotion. Et ça, c'est super. Merci beaucoup, monsieur Maire.
Merci à vous.